Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Cécile Agosta.
Bonjour Patrick.
Le projet de loi sur la recherche examiné à l'Assemblée nationale, on vient de l'évoquer dans le journal. J'ai souhaité inviter une jeune chercheuse pour nous parler de ses travaux, de ses espoirs, de l'état de la recherche en France, de la place des femmes. Alors d'abord, expliquez-nous quel est votre domaine de recherche ?
Alors, je travaille sur le climat antarctique, c'est-à-dire le climat de la plus grande calotte polaire du monde. Donc, c'est un continent qui est recouvert de glace et qui est plus grand que l'Europe. Et il faut imaginer du coup que son climat est très, très spécial. Notamment, il y a les températures les plus froides du monde, les vents les plus forts du monde là-bas. Et mes objectifs de recherche, c'est de comprendre comment ça fonctionne, le climat de cette calotte, et de savoir comment ça va évoluer dans le futur, bien sûr.
Vous y êtes rendu plusieurs fois ?
Je m'y suis rendu une seule fois pendant ma thèse.
Une seule fois pendant votre thèse. Combien d'années d'études pour cela ?
Du coup, j'ai fait 6 ans d'études avant de commencer ma thèse. Puis j'ai fait mes 3 ans de thèse. Ça fait 8 et 9 ans.
Ça fait de longues études. On va revenir sur le parcours des chercheurs. Juste un mot, parce qu'on vient d'apprendre que la banquise polaire de l'hémisphère nord a atteint ces derniers jours sa deuxième superficie la plus basse jamais enregistrée, sous les 4 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire environ 40% de perdu par rapport à la moyenne de ces 30 dernières années. Le climat se dérègle de plus en plus rapidement, Cécile Agosta.
C'est-à-dire que les projections qu'on fait, donc la communauté scientifique fait depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, même les pires projections ne projetaient pas cette décroissance si rapide de la glace de mer en Arctique. Donc nous autres scientifiques, nous sommes en face de nous-mêmes, au sens où nous avons parfois du mal à croire nos propres projections, parce qu'on sait les limites qu'on a quand on fait de la modélisation et du climat futur. Et finalement, là, on voit que la réalité rattrape nos pires projections et on se dit, ah oui, en fait, là, on est dedans.
À chaque mesure, on est dans le scénario du pire.
En tout cas, pour ce qui se passe en Arctique, oui.
Et pourquoi pas en Antarctique ?
En Antarctique, le climat est très, très mal connu encore. Donc, on avait assez peu confiance en ce qu'on prévoyait jusqu'à présent. Et les changements qu'on voit sont encore plus différents de ce qu'on pouvait penser jusqu'à présent. Donc en Antarctique, il y a encore beaucoup de travail pour mieux comprendre ce qui se passe.
Et ben c'est votre travail, voilà. Justement, Cécile Agosta. Est-ce que dans votre domaine, la recherche française est en perte de vitesse ? Est-ce qu'il y a la nécessité, comme l'a dit hier la ministre Frédérique Vidal, de reconquérir notre souveraineté scientifique ?
Dans la recherche sur le climat, la France est quand même leader mondial de ses recherches, à la fois sur les projections climatiques que sur des choses très pointues sur les paléoclimats. Donc je dirais plutôt que je suis dans un des environnements les meilleurs au monde pour faire mes recherches actuellement. Donc dans mes recherches, je ne ressens pas ça en tout cas.
À cause de la pérennité des financements, d'une tradition universitaire, pour quelles raisons ?
Alors de ce que j'ai vécu à l'étranger par rapport à en France et de ce que je connais, ce que j'aime dans la recherche française, c'est justement ce travail très collaboratif des chercheurs ensemble qui vont vraiment avancer sur les questions de science qui leur semblent importantes et travailler ensemble pour ça. Et ce qui permet ça, c'est toutes ces postes permanents de chercheurs qui permettent aux chercheurs de se soucier seulement de la science et pas de trouver des financements pour payer leur propre salaire. Parce qu'il faut savoir qu'à l'étranger, il existe extrêmement peu de postes permanents et que les chercheurs, la plupart du temps, doivent chercher des financements pour leur recherche et pour leur propre salaire.
C'est-à-dire qu'ils travaillent sur des projets.
Oui, ils travaillent essentiellement sur projets.
Sur des projets qui sont des projets dédiés, qui sont fléchés, qui sont limités dans le temps.
Exactement.
Et qui sont spécialement financés pour ces projets-là. En France, on a une tradition de postes permanents et aussi, vous venez de le dire, d'une communauté scientifique qui partage ses travaux, ses connaissances et ses résultats. C'est ça ?
Oui, c'est exactement ça. Et j'ai vraiment ressenti ça en revenant travailler en France et où j'ai pu bénéficier de tout l'environnement scientifique collaboratif. Donc j'ai pu directement faire partie de plus gros projets menés par des chercheurs depuis de nombreuses années et être inclus dans cette communauté.
Et donc, l'évolution qui se dessine, celle qui est contenue dans le projet de loi présenté par le gouvernement, qui est basé, enfin qui veut baser sur, entre autres sur des appels à projets, ça crée de l'incertitude et de la précarité. La précarité existe aussi.
Ce que je regrette, c'est qu'effectivement, on a besoin de plus de moyens dans la recherche pour travailler et pour avoir de nouveaux postes. Mais que là, l'accent, il est mis sur mettre plus de moyens, oui, mais alors seulement si c'est hyper compétitif, parce que le modèle du gouvernement, c'est le modèle à l'américaine. C'est ça qu'ils voient comme la modernité. Alors qu'en étant dans la recherche, ce que nous, nous voyons comme la modernité, c'est justement d'avoir des postes de long terme qui permettent de construire sa recherche sur du long terme et donc de vraiment avancer sur nos questions de science qui nous tiennent à cœur.
Et le modèle américain, il est à rejeter à vos yeux ? Vous ne croyez pas à l'émulation, la compétition, la récompense ?
Je pense qu'une partie des recherches peut être liée à l'émulation, mais je pense sincèrement qu'au niveau de la pérennité des emplois, là, on a besoin de visibilité. Le fait d'être en compétition juste pour manger, c'est-à-dire pour avoir son salaire, pour savoir si on va être l'année prochaine encore dans la recherche, ça fait perdre une quantité énorme d'énergie, ça je peux le savoir. Donc on va mettre à chercher tout le temps des nouveaux projets au lieu de faire d'avancer la science. Et ça empêche, parfois ça a aussi des biais qui fait que la fraude peut être... ça peut entraîner de la fraude scientifique. Parce
Pourquoi ?
Que quand on a besoin d'avoir des projets toujours et d'être toujours avec les meilleures notes pour avancer la science, et quand on en a besoin aussi pour avoir son propre salaire, on peut avoir tendance à orienter ses recherches vers les choses qui déjà ont le plus de visibilité médiatique, qui n'est pas forcément les choses qui ont le plus de fonds scientifiques. Et ça peut aussi entraîner
à falsifier ses résultats. À falsifier ses résultats d'études. Ça a été vu à l'étranger ?
Ça a été beaucoup vu à l'étranger et parfois en France dans des domaines comme la biologie.
Ouais. Et à l'étranger, dans des systèmes compétitifs, on a vu des fraudes se multiplier.
Oui, on a vu ça.
Et qui ont été révélées. Oui. Sur les financements, le gouvernement affiche 25 milliards supplémentaires sur 10 ans, le plus grand mouvement d'investissement en faveur de la science depuis les années 50, a dit la ministre Frédérique Vidal.
Bien sûr, je ne veux que saluer des efforts pour mettre de l'argent dans la science. De mon point de vue, c'est vraiment ce qu'il faut faire. En fait, l'opposition des chercheurs, elle n'est pas sur mettre plus d'argent dans la science. Bien sûr qu'on est tous contents qu'il y ait de l'argent dans la science. Notre opposition, c'est plus sur le pointage de cet argent. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de chantage à « Ok, on va vous donner plus d'argent, mais alors seulement si c'est à la mode américaine. » C'est-à-dire plus de CDD et pas de poste permanent, parce que ça, ce n'est pas ce qu'il faut.
Le modèle français contre le modèle américain, c'est le sens de votre intervention ce midi, depuis le début de notre entretien. Mais pourtant, il y a des chercheurs prestigieux dans certains secteurs, pas forcément le vôtre d'ailleurs, qui ont trouvé leur voie à l'étranger, aux États-Unis, et brillamment.
Ah oui, c'est vrai. Et en fait, dans tous les systèmes, il y a toujours des chercheurs extrêmement exceptionnels. Et ces chercheurs-là, même aux États-Unis, ils ont des postes permanents, en fait. Et en fait, en France, les chercheurs, ils ont des postes permanents et un salaire beaucoup plus petit qu'aux États-Unis, où il y a beaucoup plus de postes, en contrat court et avec des beaucoup plus gros salaires. Donc après, c'est un choix de vie. Et je pense que le choix d'avoir des salaires plus faibles, mais de la visibilité, c'est quelque chose qui attire énormément de chercheurs, français et étrangers. Je sais que l'accès au concours est extrêmement difficile actuellement. Quand on dit que ça n'attire pas les compétences, je suis moi-même blessée parce que je vois le niveau de recrutement au CNRS. Il faut voir que le niveau de recrutement au CNRS, l'âge moyen de recrutement, c'est quand même 35 ans. Donc ça veut dire avoir fait une thèse, puis ensuite avoir travaillé 8 ans, obligatoirement une partie à l'étranger, puis avoir encore enchaîné des contrats jusqu'à avoir un poste. La barre est extrêmement haute en France, donc c'est quand même attractif, ce mode de recrutement.
Cécile Agosta, quelle est la place des chercheuses en France ? Est-ce que c'est encore un métier d'homme, trop largement ?
Alors, c'est apparemment très disparate en fonction des secteurs. Il y a beaucoup plus de femmes dans les sciences humaines et sociales que dans les sciences de type climat, par exemple. Et aussi, il y a un plafond de verre après, une fois que les femmes ont un poste, pour accéder à des postes encore plus élevés, donc dans l'évolution de carrière. Donc il y a deux problématiques. l'entrée des femmes dans les sciences et ensuite la problématique du plafond de verre pour passer à un niveau supérieur.
Pour passer à un niveau de quoi ? D'enseignant, professoral ?
Donc au niveau chercheur, ça va être de chargé de recherche à directeur de recherche. Et au niveau des enseignants-chercheurs, ça va être de maître de conférence à professeur.
Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui a 20 ans de moins que vous et qui une lycéenne ou un lycéen qui aurait envie de faire de la recherche, il faut s'accrocher ?
Je lui dirais qu'il faut s'accrocher, mais que ça vaut le coup. Moi, jamais je regretterai mes années de recherche. C'est un milieu passionnant, on a énormément de liberté dans ce qu'on veut avancer. Et même si au final, le graal du poste n'est pas atteint, toutes ces années-là, elles valent vraiment la peine d'avoir une première vie dans la recherche.
Merci beaucoup Cécile Agosta, chercheuse sur le climat au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Merci d'être venue au micro d'Europe 1.